c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, au Chili, la future constitution peine à s'écrire.
Oui, cela fera bientôt un an que l'Assemblée chargée de la rédiger a été élue, la première de l'histoire du Chili, suscitant un espoir immense exprimé lors du très massif mouvement social d'octobre 2019. Sa mission est d'écrire ex nihilo, le texte qui remplacera la loi fondamentale adoptée en 1980 sous la dictature d'Augusto Pinochet et clôturer ainsi définitivement la transition démocratique commencée en 1989. Après avoir passé 3 mois à voter les articles qui organisaient son fonctionnement interne, l'Assemblée a commencé à voter sur le fond. Le temps presse puisqu'elle doit rendre sa copie en juillet pour un référendum en septembre et que tout ceci ne se fait pas sans mal, au risque d'ailleurs d'abîmer la confiance que lui font les Chiliens. Bonjour Carolina Cerda Guzman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux, rattachée au laboratoire Cercle, qui est le centre d'études et de recherche comparative sur les constitutions, les libertés et l'État. Alors, l'Assemblée constituante au Chili est répartie en plusieurs commissions pour élaborer différentes propositions sur différents sujets. Quelles sont les commissions où les débats aujourd'hui sont les plus virulents et sur quoi portent-ils ?
En effet, une fois que la convention s'est mise en place, elle a d'abord adopté son règlement général en septembre et puis elle s'est constituée en commission. Il y a 10 grandes commissions et certaines sont divisées en sous-commissions. Alors, chacune de ces commissions a d'abord procédé à des auditions de citoyens, d'experts, puis est chargée de rédiger des rapports avec plusieurs articles, de propositions d'articles sur son propre champ. Alors déjà, rien que les intitulés des commissions, parfois très révélateurs des champs qui sont à venir, mais parmi les plus visibles, hein, celles qui font le plus débat, de mon point de vue, la plus visible, c'est la commission numéro 1, qui est intitulée « Système politique, gouvernement, pouvoir législatif et système électoral ».
Donc c'est la commission qui est en charge de l'architecture institutionnelle du futur État chilien.
Exactement. Donc c'est ce qu'un collègue argentin appelle la salle des machines d'une constitution, parce que ça établit tous les éléments clés du fonctionnement institutionnel de la constitution. Alors cette commission, donc déjà son objet est important, mais en plus elle est composée de 25 membres qui sont certains très connus et très visibles. Alors je vais donner un exemple. Il y a Jaime Bassa qui est en fait l'ancien vice-président de la convention. Hein, lorsqu'elle a été créée, la convention a eu une présidente, un vice-président. Jaime Bassa a été le premier vice-président. Alors, un spécialiste en droit constitutionnel, puis situé plutôt à gauche dans l'échiquier. Puis de l'autre côté, on a Marcela Cubillos, qui est une des rares anciennes ministres, hein, qui est membre de la Convention et ancienne ministre de Sebastián Piñera, donc plutôt à droite. Donc déjà, cela montre bien les figures, on va dire, qui sont dans cette commission. Et puis surtout, donc cette commission présente la particularité d'avoir des grandes difficultés à établir des accords transversaux solides. Et ça, on l'a vu parce que le 18 mars dernier, elle a dû soumettre son premier rapport à l'Assemblée plénière qui contenait 95 propositions d'articles. Et ce rapport a été en 97% rejeté par l'Assemblée plénière de la Convention. Il y a seulement 3 des propositions sur les 95 ont été acceptées. Donc ça a été vraiment vécu comme un revers, un échec. Hein. Et une des raisons tiendrait, alors il y en a plusieurs, mais une des raisons tiendrait sur un désaccord profond sur le modèle proposé par cette commission et des débats sur la question de savoir est-ce qu'il faut un parlement avec une ou deux chambres. D'un côté, on a l'aile plus à gauche, très à gauche de la commission, qui plaide pour une seule chambre, parce que jusqu'à présent, le Parlement chilien était composé de 2 chambres, et eux veulent supprimer la chambre la plus conservatrice, qui est le Sénat. Exactement. Mais l'aile à droite de la commission s'y oppose. Et on va dire les socialistes ou le centre-gauche de la Commission est aussi très réticent. Pourquoi ? Parce qu'en Amérique latine, dès qu'on parle d'une seule chambre, ben, on a en visualisation l'exemple qui est montré en épouvantail, c'est le Venezuela. en disant, ben voilà, une seule chambre, c'est la tyrannie du Parlement, et ou au contraire, soit un Parlement godillot qui ne fait que suivre ce que veut le président et sans contre-pouvoir.
Alors, Carolina Sarda Guzman, d'autres commissions ont vu leurs propositions refusées, puis finalement adoptées plus tard telles quelles. C'est le cas de la définition du Chili comme un État démocratique et social qui n'est d'abord pas passé avant d'être accepté, ce qui sème la confusion. Quels effets de ces tergiversations sur l'opinion publique chilienne? Est-ce que ces débats sont suivis passionnément, comme on peut l'imaginer d'un pays où près d'un million de personnes ont défilé en 2019 pour demander, entre autres, que soit réécrite ex nihilo la loi fondamentale héritée de la dictature?
Alors, moi, maintenant, il me paraît un peu excessif de dire que les débats sont suivis de manière passionnée, parce que la tension s'est un peu essoufflée hein, autour de la convention. Mais malgré tout, ça reste une question centrale. Et les couacs, hein, enfin, ça c'est souvent interprété comme des couacs, le fait qu'il y ait un article qui paraisse évident, qui n'est pas adopté, puis ensuite qui repasse, c'est vraiment vu comme des couacs, et c'est assez préjudiciable sur l'image de la convention, et d'autant plus qu'à côté de cela s'ajoutent des problématiques liées aussi à des personnes au sein de la convention. Notamment, on a eu toute une saga, on va dire, liée à un des membres qui est Rodrigo Rojas Vade, qui a été membre de la convention et qui ensuite s'est révélé qu'il avait menti sur son état de santé lors de son élection. Et tout ça, ça a duré, ça s'est éternisé jusqu'à ce qu'enfin, le 15 mars, on ait pu procéder officiellement à sa démission, hein, qu'il puisse démissionner officiellement de la convention. Donc, on a cela, puis ensuite, on a voilà, donc ces articles qui sont rejetés, puis réadoptés quasi tels quels. On a ensuite des polémiques liées à des désinformations, hein, des informations qui sont présentées comme vraies par une partie de l'opinion, hein, surtout par des membres de la droite, et qui en fait se révèlent fausses, hein, sur des articles qui auraient été adoptés. Donc tout cela alimente nécessairement une grande méfiance et explique en grande partie pourquoi maintenant on est passé ces dernières semaines à des sondages qui sont très mauvais pour la convention.
Un sondage qui vient de donner, par exemple, début avril, et pour la première fois, une majorité en faveur d'un rejet de la nouvelle loi fondamentale, en tout cas quand elle sera soumise à référendum en septembre prochain. C'est l'Institut CADEM, par exemple, qui dit que 46% des personnes interrogées voteraient contre ce texte lors du vote du 4 septembre.
Les difficultés d'écriture de la nouvelle constitution chilienne, c'est le thème des enjeux internationaux ce matin avec la chercheuse Carolina Sarda Guzman.
Et comment la droite chilienne, alors, joue de ces divisions, elle qui majoritairement est contre le fait de tirer un trait sur la Constitution toujours en cours, Carolina Sarda Guzman.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit deux stratégies différentes avec la droite au regard de la Convention. Parce qu'on a la stratégie au sein de la Convention et puis celle qui est à l'extérieur. Au sein de la Convention, il est important de dire que la droite ne dispose pas de majorité de blocage. Elle n'est pas assez puissante en quantitativement pour pouvoir empêcher l'adoption des normes. Et donc, initialement, elle a un peu longtemps tergiversé sur son rôle. Les membres de droite ne savaient pas trop comment se positionner. Surtout que c'est une droite assez diverse, hein. On a quand même plusieurs parties de droite, hein, qui sont représentées à l'intérieur de la Convention. Alors aujourd'hui, la tendance est clairement au renfermement de cette droite sur elle-même au sein de la convention. Elle joue sur l'idée qu'elle est exclue du débat. Elle joue sur l'idée que la Constitution, vu qu'ils ne peuvent pas participer, que toutes leurs propositions sont rejetées, qu'ils ne sont pas écoutés, que finalement, c'est la Constitution qui est en train de se rédiger. Elle est politiquement biaisée, qu'elle ne représente pas l'ensemble des Chiliens. Ils disent beaucoup qu'elle n'est pas la casa de todos, qu'elle n'est pas la maison de tous. Ça alimente cette méfiance. Alors à côté, ils ont essayé d'utiliser beaucoup de voies juridiques pour entraver l'action de la Convention. Ils ont essayé d'utiliser les voies qui étaient mises à leur disposition, de saisir la Cour suprême, d'autres instances, des cours d'appel, etc., pour bloquer l'action de la Convention. et contester hein, ses modalités de procédure. Alors, jusqu'à présent, aucune des juridictions s'est reconnue compétente pour contrôler les règles, les articles qui étaient votés par la Convention. Donc ça a échoué. Et donc finalement, ils se sont reportés vers l'extérieur. Et c'est surtout vers l'extérieur de la Convention que l'on voit beaucoup de contestations politiques, beaucoup de tribunes, beaucoup de prises de parole, de plus en plus visibles, s'opposant au texte et aux travaux de la Convention.
Alors que cette convention devait aussi créer un nouveau rapport aux politiques, disait-on, recréer une confiance. Et puis c'est toujours vu de France surprenant. En France, le pouvoir constituant, c'est le pouvoir souverain par excellence. Au Chili, il y aura jusqu'au bout des débats sur la souveraineté de la convention constitutionnelle. Pour conclure, Carolina Cerda Guzmán, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, la convention doit remettre ses travaux début juillet, autant dire après-demain. C'est un très gros chantier que celui de réécrire, bien sûr, une loi fondamentale. D'ores et déjà, qu'est-ce qu'on voit se dessiner sur tous les sujets dont il avait été promis qu'il serait prioritaire, l'accès à la santé, à l'éducation, le droit des peuples originaires, comme on dit, l'égalité homme-femme. Est-ce qu'il y a une cohérence pour l'instant du texte qui commence à se dessiner?
Alors, cohérence, c'est encore difficile. Alors, pour l'instant, le brouillon actuel, parce qu'on a vis-à-vis de la procédure, on a maintenant un brouillon qui est composé d'environ 300 articles. Alors, ce chiffre va encore augmenter, hein, parce qu'on n'est pas encore fini. Mais après, il y aura toute une période, une phase de tri et d'harmonisation. Alors, vous voyez, avec 300 articles, pour l'instant, c'est très difficile de parler de cohérence. L'ensemble est un peu disparate et décousu. Mais par contre, on sait déjà qu'il y a certaines choses qui sont là. On sait que le Chili va devenir, a priori, hein, un État plurinational, donc reconnaissance des droits des communautés, des peuples originaires. On sait que le caractère paritaire, l'égalité homme-femme, va être fortement inscrit. On sait déjà que la liste des droits fondamentaux s'est étoffée. Donc on a le droit à un logement décent qui est reconnu, le droit à la sécurité sociale, surtout fondée sur un système public qui a été inscrit, le droit à la santé, également fondée sur un système public, le droit à l'eau. Donc des éléments très importants pour les personnes qui avaient plaidé pour cette nouvelle constitution. Et puis aussi des éléments très nouveaux qui n'avaient pas été évoqués avant, mais par exemple le fait que le Chili sera un État laïque, ça c'est une grande nouveauté qui va être inscrite dans la nouvelle constitution. Et
Merci.
après,
Merci
voilà.
beaucoup, car voilà, il y a encore beaucoup à dire. De toute façon, on continue hein, dans les enjeux internationaux à suivre l'écriture de cette nouvelle constitution au Chili. C'est passionnant que de voir un pays écrire son avenir comme il le fait aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux, rattachée au laboratoire Cercle.
Merci les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture, l'esprit d'ouverture.